Bonjour Raphaël, on est ici pour parler de votre livre, votre dernier livre, Descente au cœur du mal, qui traite des questions sur le féminisme. Voilà Raphaël, vous êtes un homme. Quelle est votre légitimité aujourd'hui à parler et à décrypter ce que veulent les femmes ?
Bah, vous avez remarqué que je me pose la même question que vous dès le début du livre. Parce que oui. Dès le début du livre, je dis, voilà, mais quelle légitimité je peux bien avoir ? Et c'est parce que ce livre ne parle pas des femmes en tant que telles, parce que je m'en sentirais vraiment bien incapable, je ne me permettrais pas de parler des femmes en tant que telles. En revanche, je peux parler du regard des hommes sur les femmes. Et il me semble que l'essence même du machisme, de l'inégalité, elle est dans ce regard sur les femmes. Le regard des hommes sur les femmes. Et je dirais plus que sur les femmes en général, pas les femmes en tant qu'être abstrait, sur le corps des femmes, sur ce qu'est un corps de femme. Or, ce que j'ai trouvé fascinant, mais négativement fascinant, depuis le début de ce mouvement, c'est que le mouvement lui-même, c'est-à-dire ce qui s'écrit sur MeToo, les témoignages, les millions de témoignages de femmes, qui se sont déployés sur MeToo, concerne très exactement cela. Mais vraiment cela. Et presque, on va dire, uniquement cela. Qu'est-ce qu'un corps de femme dans les yeux d'un homme au XXIe siècle ? D'où découle l'idée ? Est-ce qu'une femme est souveraine sur son propre corps ? Et est-ce qu'elle a le droit de consentir ? Est-ce qu'elle peut consentir à jouir pour elle-même ou pour autrui dans la relation, quelle est la nature de la relation. C'est ça qui est dans MeToo, c'est pas de la dénonciation, c'est pas... Et ce que je remarquais que dans le même temps, se développait une polémique médiatique, une sorte de brouhaha, de discours, on pourrait dire une sorte de friture généralisée, qui vraiment, paradoxalement, rendait absolument inaudible la vraie question. Mais qui la rendait inaudible, tout le monde prétendait qu'on parlait aux États-Unis, alors il faut séparer plus. Comme je vis une grande partie de mon temps aux États-Unis, je me rendais compte, étant français, je me rendais compte aussi de la version française. La version américaine, c'était il faut plus séparer les hommes et les femmes, il faut que ce soit plus juridique, il faut contractualiser, il faut exprimer sur feuille presque maintenant. Il y a des avocats qui disent qu'il faut exprimer le consentement par écrit. Il faut laisser la porte ouverte lorsqu'on est avec une femme. Par exemple, là, on ne pourrait pas parler ensemble. Il faudrait qu'on laisse la porte ouverte, qu'il y ait un témoin, une troisième personne, etc. etc. Puis en France, on va dire la dénonciation, ça va trop loin, etc. Et quand je regarde, parce que ça empêche le flirt, ça empêche la drague, ça empêche d'être heureux, d'être bien, de s'épanouir, c'est contre notre culture, etc. Je me suis dit, c'est marrant, parce que les femmes sur MeToo, vraiment sur MeToo même, je ne parle pas de tout ce qu'il y a autour, parce que finalement, peu de gens lisent ce qui se passe sur MeToo, puisque tout le monde pense savoir ce qu'il y a dedans. Eh bien, elles ne parlent pas de tout ça, ce n'est pas de la chasse à l'homme. Alors vous allez me dire, il y a des dénonciations. Sur 5 millions, il y a très très peu de dénonciations, il n'y a même pas 0,1%. Pas 0,1%. Il y a un certain nombre de célébrités, parce que ce sont des célébrités surtout, mais sur le fond, c'est la dénonciation vraiment de situation. Donc moi, ce que j'ai voulu... Enfin, si vous voulez, le livre, il s'articule sur trois plans. C'est ce qui fait ça, je pense, peut-être sa légitimité. C'est le plan de ce que j'ai observé dans l'actualité, qui me semblait... être un peu fou, comme si d'un côté, on parlait d'un certain nombre de choses partout dans les médias qui n'étaient pas du tout l'objet de MeToo, qui était beaucoup plus profond, et qui, à mon avis, est plus profond parce que c'est un mouvement historique. Et c'est là où on en arrive au deuxième plan. Ça, c'est ce que je suis plus du point de vue professionnel, c'est-à-dire philosophe et sociologue. Et je m'intéresse à ce qu'est l'identité humaine. Or, là, on a affaire à une vraie transformation, non seulement des rapports de force, mais de la nature même, de la définition même de ce qu'est un homme, de ce que sont les hommes et les femmes, le rapport entre féminité et masculinité, depuis, au moins depuis le néolithique, si ce n'est depuis le paléolithique. Donc j'explique, j'essaye d'expliquer pourquoi dans le livre, qu'est-ce qui s'est passé au néolithique, au paléolithique. Je pense qu'on on y reviendra. Donc c'est le deuxième plan. Donc je comparais cet aspect, ce que disent ces femmes aujourd'hui, avec le sens de ce qu'est une femme et un homme depuis le paléolithique et le néolithique. Je me suis dit, mais c'est faramineux ce qui est en train de se passer, mais on passe à côté dans l'actualité. Peut-être que si on passe à côté, c'est pas un hasard, c'est justement parce que ça dérange, parce que c'est tellement profond, tellement fort. C'est pour ça que je parle de descente au cœur du mal. C'est tellement au cœur du problème qu'on peut pas le voir. C'est un peu comme de la psychanalyse. Là, il y a une vraie... Je pourrais dire qu'il y a peut-être une psychanalyse collective. Vous savez que le processus de la psychanalyse, d'ailleurs, vous parlez à votre psy et vous pensez que vous avez besoin de réfléchir pour expliquer, mais petit à petit, vous finissez par réfléchir de moins en moins, si vous vous laissez aller, et c'est là où vous touchez le cœur du problème. Et le cœur du problème, vous avez tellement de mal à le dire que vous ne savez même pas ce que c'est.
Alors, quel est le cœur du problème ?
Voilà. Je dis le troisième plan, mais je vais vous dire le troisième plan. C'est ma sexualité personnelle. Ma sexualité personnelle, mon désir, ma manière de voir les femmes, mes fantasmes. Et je me suis rendu compte que on peut ne pas être coupable. Je ne me sens pas coupable ni de harcèlement, ni de violence en général, et encore moins de viol à l'égard des femmes. En revanche, je ne veux pas me dédouaner de ma responsabilité. En tant qu'homme, dans mon regard. Ça ne veut pas dire que je suis coupable, parce que ce regard, il m'a été transmis de génération en génération, peut-être depuis le pré-néandertalien, ce que j'essaie d'expliquer, donc depuis 750 000 ans, on s'en débarrasse pas facilement, mais ce regard que je porte sur les femmes, il a été aussi transmis aux femmes, qui regardent leur propre corps aussi d'une certaine manière. Voilà. Donc c'est ça, le livre, il articule ces trois niveaux. Ma sexualité personnelle, dont je suis responsable, et le niveau anthropologique, qu'est-ce que c'est qu'un homme et une femme depuis l'aube de l'humanité, et l'actualité de ce qui est en train de se passer.
Mais alors, quel est le cœur du mal, Raphaël ?
Les rapports hommes-femmes sont d'une stabilité affligeante depuis des dizaines de milliers d'années. C'est-à-dire qu'on peut dire clairement que c'est l'inégalité la plus puissante, la plus forte, la plus intériorisée, la plus longue de l'histoire de l'humanité. Elle est tellement longue, tellement puissante, tellement profonde, tellement intériorisée, qu'à un moment donné, elle n'est même pas perçue. C'est-à-dire que ça finit par devenir, c'est ça le féminin, c'est ça le masculin. Un certain nombre de personnes, de bonne foi, vont dire, mais c'est quand même normal, c'est ça une femme, c'est ça un homme. Et on va avoir du mal à déplier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis le paléolithique, enfin au paléolithique, et là je brosse à grands traits, les femmes ont d'emblée été exclues. Elles ont été exclues, c'est ce que montre toute une série d'études, elles ont été exclues mais déjà de la nourriture carnée, de la nourriture protéinée. Pourquoi ? Parce que la nourriture protéinée, c'est la viande, donc c'est les animaux, et au paléolithique, puisque c'est des sociétés de chasseurs-cueilleurs, c'était la chasse, et la chasse était l'activité noble, virile, l'activité de force. Et donc, les femmes ont été exclues pour les inférioriser, même en termes de statut, même symboliquement, pour dire qu'elles ne sont pas dignes de manger de la viande.
Merci Raphaël, mais vous ne pensez pas que c'est simplement une interprétation de l'histoire, votre interprétation ?
J'en doute fort. Je vais vous dire pourquoi. En plus, on verra que la suite de l'histoire nous montre que ça ne peut pas avoir été désiré par les femmes, mais bon, dans ce qui va se passer au néolithique. Mais restons sur le paléolithique. Les femmes vont être exclues de la nourriture carnée, elles vont même être exclues à un moment donné de la nourriture qui est plus non seulement protéinée, mais avec des graisses, des lipides dont on a besoin. Et donc, puisque vous parlez de la reproduction, le fait d'être enceinte, etc., elles en étaient exclues en particulier, privées en particulier, lorsqu'elles étaient enceintes. Ce qui provoquait des carences extrêmement fortes, et c'est ce qui a ensuite provoqué ce que certains paléo-anthropologues appellent une pression évolutive imposée par les hommes, qui a fait qu'elles sont plus petites, plus fragiles, plus faibles, etc. Donc ça ne les arrangeait pas du tout. Au contraire, c'était presque une privation, une déprivation de nourriture. Au moment où, puisqu'on est au pré-néandertalien, au moment où la forme physique humaine n'était pas encore stabilisée, on n'était pas encore l'homme actuel. Ce qui explique des différences physiques. Il y a évidemment des différences qui sont liées aux hormones, à toute une série de choses. Mais s'il n'y avait pas eu ça, les femmes seraient plus grandes, plus fortes, avec des os plus solides. Ça ne veut pas dire que ça a limité leur durée de vie, justement, puisqu'elles vivent plus longtemps pour d'autres raisons qu'on a encore du mal à élucider, d'ailleurs.
Mais alors, comment les femmes se sont-elles adaptées à cette évolution ?
Comme les hommes vont dire que les femmes sont un peu le négatif de l'homme, sont des moitiés d'hommes, elles vont essayer de cultiver ce qu'il peut y avoir de mystérieux dans le fait d'être l'ombre de l'homme. Elles vont essayer d'utiliser même l'image fantasmatique de fragilité à leur profit. C'est-à-dire la projection des hommes sur la fragilité des femmes, sur la pudeur, sur leur retenue, sur leur côté abandon, sacrificiel. Donc elles vont l'utiliser pour obtenir une petite part du pouvoir. Mais comme peut le faire un esclave aussi avec son maître, comme peut le faire même quelqu'un qui est pris en otage avec ses ravisseurs. C'est un processus qui est bien connu. C'est-à-dire que d'un côté, celui qui est pris en otage va finir par peut-être même tomber amoureux de son ravisseur, hein, c'est un processus connu, et va essayer aussi de négocier plus de marge, puisque de toute façon ils sont destinés à vivre ensemble, les deux vont essayer de vivre ensemble, le ravisseur et l'otage. Et alors là, on a ravisseur et otage, mais sur des centaines de milliers d'années. Donc vous imaginez, on a de plus en plus l'habitude de vivre ensemble et on essaye de faire en sorte que finalement ça se passe bien. On finit par oublier qu'au départ ça se passait comme ça. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, une personne, un individu quel qu'il soit, voudrait, s'obstinerait à dire que celui qui est en face est inférieur et est moins fort, est moins compétitif, est moins intelligent toute la journée? Et donc vouloir l'exclure, dire non, c'est pas la peine que tu joues avec moi, c'est pas la peine que tu viennes avec moi à l'achat, c'est pas la peine. À la fin, quand ça devient obsessionnel à ce point, c'est que celui qui le dit, il n'est pas si sûr de sa supériorité. Est-ce que vous ne croyez pas ça ? Et donc la question que je me pose, c'est peut-être que l'homme n'est justement non seulement pas si sûr de sa supériorité, mais il est angoissé par l'idée que finalement c'est peut-être lui qui est inférieur, qui n'est pas sûr de pouvoir faire face. Et quand on s'interroge, on se rend compte que cette obsession consiste à exclure les femmes de toute compétition. Parce qu'en fait, les hommes ne sont pas sûrs d'être à la mesure de cette compétition, à la mesure du pouvoir des femmes. Et quand on approfondit encore plus, je vous disais que le langage, c'est l'inconscient des cultures. Donc quand on dit qu'on possède une femme, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On la possède par le sexe, on a besoin par le sexe de la posséder. Si on va plus loin dans le langage, qu'est-ce que veut dire impuissance ? Le mot impuissance, à la base, pourquoi est-ce que ça... Le mot impuissance, ça voudrait dire de ne pas pouvoir faire, de ne pas pouvoir être, de ne pas pouvoir exister, de ne pas être libre, d'être impuissant. Comment se fait-il que ça se réfère directement, quand on dit qu'un homme est impuissant, à cette peur de l'incapacité à avoir une érection face à un corps de femme ? Ça se finisse par se réduire à ça. Donc je crois qu'il y a un sentiment originel d'impuissance chez les hommes qui fait que c'est une impuissance face au corps des femmes. C'est un sentiment d'impuissance par rapport à une angoisse de l'impuissance face au corps des femmes. Pourquoi ? Pour deux raisons. Un, cette raison, elle a déjà été évoquée, celle que je vais évoquer là, par Françoise Héritier, la célèbre anthropologue décédée récemment.
Ouais.
Elle dit « Les hommes sont impressionnés et angoissés en même temps » par la capacité reproductive des femmes. C'est-à-dire comme si les femmes avaient un privilège justement naturel, originel, c'est-à-dire qu'ils contrôlent la lignée, ils contrôlent la reproduction. Elles peuvent savoir qui va être leur enfant, alors qu'un homme, il est là, il est dans cette espèce de situation. Et donc, cette angoisse est tellement forte que les hommes font payer ce privilège inconsciemment qu'ils se représentent comme exorbitant en contrôlant les femmes, en essayant de les limiter, en essayant de leur expliquer qu'elles sont inférieures, que c'est pas vrai, qu'elles sont pas fortes. Moi, je crois que ça va encore plus loin que ça. Je crois que c'est non seulement que les hommes sont angoissés par la capacité reproductive des femmes, qui peuvent contrôler la lignée, donc la reproduction des enfants, etc. Mais ils sont complexés aussi par ce qu'il se représente comme étant la capacité de jouissance des femmes. C'est pour ça que c'est pas seulement la reproduction, c'est la jouissance, c'est pour ça qu'il y a excision. Parce que l'excision, c'est pas lié à la reproduction, c'est l'idée qu'elles peuvent jouir. C'est-à-dire qu'elles peuvent décider de faire ce qu'elles veulent de leur propre corps pour jouir de leur corps indépendamment des hommes. Et les hommes se représentent ça comme étant infini. Parce que ont le sentiment d'avoir une sexualité qui est finie, limitée. Ça, on le retrouve au 19e siècle.
Mais c'est quoi une sexualité finie et limitée?
Au 19e siècle, des femmes qui auraient pu être considérées comme des sorcières, c'est-à-dire avec une sexualité plus libre. Au Moyen-Âge, on aurait parlé de sorcières, j'en ai déjà parlé précédemment. Au 19e siècle, comme on va médicaliser les définitions, ça va devenir une hystérique. C'est là que devient le mot hystérique. Je vous signale que le mot hystérique, ça vient d'utérus. Ça veut dire qu'une femme serait... Le corps des femmes serait potentiellement maladif. Et potentiellement maladif, pourquoi? Parce qu'il serait grévé, d'une capacité de jouissance infinie. Elle pourrait tellement jouir infiniment qu'elle en deviendrait folle. L'hystérie, ça serait ça. Alors, pour le résumer de façon brutale, une femme serait sans cesse au bord de l'abîme de la folie, naturellement, parce que si elle se laisse aller à sa tendance naturelle, elle pourrait avoir des relations sexuelles sans fin, puisqu'une femme, en gros, la représentation qui peut angoisser un homme, c'est qu'elle pourrait coucher avec n'importe qui toute la journée sans limite. Ce que peut croire un homme. Alors qu'un homme se dit que lui, il a une sexualité limitée, au sens où il peut faire l'amour une fois, deux fois, et... Après, c'est de plus en plus difficile, d'où le sentiment d'impuissance. Il ne va plus pouvoir avoir d'érection. Il va pouvoir le faire une fois, il pourra le faire deux fois, mais il est limité. Alors qu'une femme, il vaut mieux qu'elle ne commence pas, parce que quand elle commence, on ne sait pas quand ça va finir, puisque c'est infini. On se représente donc la sexualité des femmes comme étant abyssale, un abysse, un utérus, un trou, en réalité, dans lequel l'homme peut se perdre. C'est pour ça qu'il préfère contrôler préalablement la sexualité des femmes, parce qu'il se dit... Après, ça n'a plus de fin. C'est ce qui se représente, c'est leur fantasme, c'est leur imaginaire, et l'imaginaire de l'angoisse. Et c'est toute la société bourgeoise du 19e siècle qui va rétablir le contrôle, qui était un contrôle jadis religieux, mais cette fois fondé sur l'idée médicale que le père doit protéger sa fille, la virginité de sa fille, pour des raisons médicales, parce qu'après, ça va être, elle va sombrer dans l'hystérie, ou le mari contrôler sa femme. Donc elle doit être fidèle pour des raisons d'hygiène physique, alors que l'homme, lui, il peut aller au bordel.
Donc ça va même plus loin. Est-ce que l'homme ne serait pas, en définitive, le sexe faible?
Je pense que l'attitude de violence, la violence, c'est le contraire de la force. C'est ce que disait déjà Nietzsche. Quand on est sûr de sa force, on est pacifique, parce qu'on n'a rien à prouver. Or, une des caractéristiques de la virilité, c'est d'avoir tout le temps le sentiment de prouver. D'où l'invention de la compétition, de mesurer son sexe, la grosseur du sexe, la grosseur des montres, la grosseur des voitures, la grosseur de la maison, en avoir une plus grosse, enfin je veux dire, ça a l'air d'être vulgaire de dire ça, mais c'est quand même quelque chose. La musculation encore aujourd'hui, le bodybuilding, les plus gros muscles, cette incompréhension qui existe entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire les femmes qui disent tout le temps « mais moi les gros muscles, je m'en fous ». L'essentiel du temps, c'est vrai. C'est-à-dire que réellement, elles peuvent s'en foutre. C'est parce qu'elles se représentent. Ouais. Mais les hommes ont tellement intériorisé que non, qu'il faut quand même qu'ils aient des gros muscles, ils vont le faire quand même. C'est-à-dire, alors ils vont le faire pour séduire les femmes, parce qu'ils pensent que ça séduit les femmes, parce qu'ils pensent qu'il faut avoir de larges épaules, parce qu'ils pensent qu'il faut avoir de larges épaules depuis le paléolithique, déjà dans la nourriture, aujourd'hui, de façon plus scientifique, en prenant des protéines encore plus concentrées, plus, pas comme à l'époque de la chasse, vous voyez. Et les femmes vont leur dire « Non, c'est pas nécessaire, moi je trouve ça grossier, c'est pas... » Ils vont quand même penser que non, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de se prouver quelque chose. Donc c'est bien le sentiment d'impuissance. Vous voyez ? Et encore aujourd'hui, c'est bien ce sentiment d'impuissance qui existe. C'est pour ça que ce qu'on trouve dans la culture, tout le temps le négatif, la femme est un négatif, est une moitié, etc. Cette obsession, elle révèle ce sentiment d'impuissance. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Freud, avec Sigmund Freud. Parce que Sigmund Freud nous dit que les femmes se sentent castrées, c'est-à-dire qu'elles auraient aimé avoir un phallus, c'est ce qu'il appelle le complexe de castration. Et toute une partie de la psychanalyse, en tout cas la psychanalyse freudienne, pas de la psychanalyse chez Lacan, toute une partie de la psychanalyse freudienne, fondée sur cette idée que les femmes ont un complexe de castration, que la petite fille aurait voulu avoir un phallus, etc. etc. Bon, je crois qu'il n'y a rien de plus faux. S'il y a un apport peut-être théorique du livre, je pense qu'il est vraiment là du point de vue... et c'est la clé, en réalité. Je crois que ce sont les hommes qui ont un complexe de castration. Parce que, et comme ils ont ce complexe de castration, ils imposent aux femmes l'image de la supériorité du phallus. Et donc, à force de cultiver cette image, ben, il va y avoir chez les femmes, effectivement, il peut y avoir, elles vont partager un peu ce culte du phallus. En fait, c'est les hommes qui ont ce complexe de castration. Donc, c'est les hommes qui parlent de la grosseur de leur sexe. Je veux dire, je suis désolé, j'essaye de dire les choses directement. De la grosseur de leur montre, enfin de tout. Ce sont les hommes qui en parlent. Donc c'est ça le complexe de castration, qui est directement nourri par le sentiment d'impuissance et qui détermine directement cette espèce de fantasme chez les hommes qui consiste à soumettre une femme et de jouir de sa soumission et de percevoir l'activité sexuelle elle-même comme un exercice de soumission qui crée leur sentiment viril. C'est-à-dire qu'ils ont besoin des femmes pour exister dans leur virilité. Ce qui est quand même le cœur du cœur du cœur
du mal.
Et c'est très exactement l'attitude, je pourrais dire, weinsteinienne. Parce que l'attitude de Weinstein, c'est non pas jouir même directement d'un corps de femme. Ça serait plutôt DSK, je le dis dans le livre.
Ouais.
Qui veut coucher avec n'importe qui est une sorte de... Ça, c'est l'effet de la domination, avec ça peut être des prostituées, payées, pas payées, etc. C'est juste, il y a besoin de ça, de Casanova. Hein. Weinstein, lui, c'est vraiment le cœur du mal, et c'est ça qui a fait démarrer le mouvement à l'échelle planétaire. C'est très intéressant que ce soit ça, parce que c'est pas seulement le corps des femmes dont il veut jouir. Il veut jouir de son pouvoir à travers le corps des femmes. Autrement dit, il veut jouir de la soumission elle-même. Donc il veut que des femmes viennent dans sa chambre, donc elles savent qu'elles viennent dans sa chambre, donc elles savent qu'elles sont là pour ça. Si c'est des stars, ça lui fait encore plus plaisir. Il veut qu'elles sachent qu'elles sont là pour ça. Il ouvre son peignoir, il leur demande de les masser. Donc il jouit de l'humiliation elle-même, et donc du fait de les posséder encore plus parce qu'il les soumet encore plus. Et donc c'est exactement le processus complexe de castration, hein, nourri par le sentiment d'impuissance, désir d'exister, hein, de faire exister sa virilité en brisant, en soumettant une femme. Et en fait, c'est très exactement à ça que s'attaque MeToo. Et c'est très exactement cela qu'on essaye d'éviter, c'est ce dont on essaye d'éviter de parler aujourd'hui, lorsqu'on a toutes ces polémiques sur la galanterie, sur ce truc, etc., alors que ce n'est pas le sujet.
Merci Raphaël pour la transition avec Harvey Weinstein. Que diriez-vous à ceux qui critiquent le fait que cela soit des femmes dites privilégiées qui dénoncent ?
J'y réponds aussi dans le livre déjà, parce que déjà le mouvement MeToo, il a commencé en 2007, bien avant, et effectivement, quand c'était des Afro-Américaines, et une Afro-Américaine qui a lancé le mouvement, et donc lorsqu'il s'agitait de femmes dominées, de femmes qui appartenaient pas à des milieux sociaux du centre, bourgeois, encore moins des stars, ça n'intéressait personne. Mais ça, c'est la vieille histoire de l'humanité, hein. La Révolution française elle-même, elle est bourgeoise.
Oui.
Tant qu'il n'y a pas des élites qui elles-mêmes se sentent oppressées et qui veulent se révolter, ça ne marche pas. Une révolution, elle fonctionne quand ce sont les dominés parmi les dominants. Voilà. Parce qu'à un moment donné, des femmes qui sont dans des milieux dominants, c'est-à-dire des stars, etc., se sentent quand même dominées en tant que femmes. Et on les écoute parce qu'elles sont dominantes en tant que stars. Et du coup, elles permettent un soulèvement. Mais une fois que ce soulèvement s'effectue, effectivement, il faut qu'il passe par là pour que le soulèvement s'effectue. Enfin, c'est comme ça dans l'histoire. Alors là, elles tirent vers elles toute une série d'autres revendications. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est par exemple il y a les ouvrières des usines Ford, qui sont loin d'être, qui sont les, pour le coup les dominés parmi les dominés, et qui se révoltent. Et elles se révoltent du fait même justement de ne pas être écoutées. Et donc elles finissent par être écoutées, donc, parce qu'elles se révoltent du fait de ne pas être écoutées. Donc on en parle dans le New York Times. Ouais. Vous voyez ? Et donc progressivement, le processus s'élargit. Et donc aujourd'hui, vraiment, MeToo concerne tout le monde. Sauf que dans les médias, là c'est dans les médias, effectivement, les médias, ils s'intéressent à quoi ? Les médias, c'est quand même aussi ici Paris. Hein. Donc Paris Match, donc ils s'intéressent à quoi ? Ils s'intéressent à ce qui fait vendre, à si ça arrive à un couple princier, à une star, etc. Évidemment, c'est des, mais ça, c'est pas de la faute de celle qui revendique, hein. C'est quand même la faute de ce qu'est l'espèce humaine et de son fonctionnement. Hein.
Ma question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait de votre livre ? Qu'est-ce qu'on fait des mouvements comme MeToo, Balance ton port ? Comment ça se matérialise concrètement d'un point de vue législatif, par exemple ?
Je n'ai pas écrit ce livre pour qu'on ajoute des lois, parce que je pense que les lois sont pas mal. Je pense qu'en particulier en France, ouais, ou même aux États-Unis, je pense que du point de vue juridique, ça ne fait pas longtemps. Ça fait très peu de temps. C'est-à-dire, encore, je dis dans le livre, encore... dans les années 90, la dernière décennie du XXe siècle, pour que vraiment le viol entre époux soit reconnu. Ouais, c'est quand même impressionnant. Ne parlons pas du vote, du consentement, etc. Mais je dirais, regardez, il y a trois cercles dans la question de l'égalité. Le premier cercle, c'est l'égalité en droit. C'était la promesse de la modernité. Le monde moderne au XVIIIe siècle, c'est une promesse. C'est l'idée que, bon voilà, maintenant, tous les hommes, parce qu'ils sont hommes, quelle que soit leur race, quelle que soit leur classe sociale, l'argent, leur pouvoir financier, quel que soit leur sexe, quel que soit, en tant qu'ils sont hommes, c'est plus leur position, sont égaux. C'est ça la déclaration. Qui va devenir universelle, qui est une déclaration des droits de l'homme. En fait, elle ne sera pas universelle, ce sera théoriquement, ce ne sera pas universelle, les femmes vont être systématiquement exclues. C'est-à-dire qu'elles n'auront pas le droit de vote, elles n'auront pas le droit de jouissance de la propriété, parce qu'on ne leur reconnaîtra pas le droit de jouissance de leur corps, hein, justement. Donc, pas la jouissance de la propriété, rien de tout ça. Elles vont se battre pendant plusieurs siècles, pendant deux siècles, pour obtenir cette égalité en droit, qu'elles vont obtenir à la fin du XXe siècle dans certaines sociétés, à peu près, parce qu'il y a encore à peu près 150 des 189 pays, 189 États, qui contiennent dans leurs droits des inégalités hommes-femmes, dans leurs droits eux-mêmes. C'est plus le cas, je crois, du droit français, d'un certain nombre de droits. Donc je ne crois pas que le progrès doit se faire en droit. Parce qu'elles se sont battues ensuite dans le deuxième cercle. Plus difficile, c'est de rendre ce droit applicable. Ouais. C'est-à-dire, là, c'est l'égalité économique. Le combat aujourd'hui, il est déjà dans le deuxième cercle, c'est-à-dire appliquer les droits pour lesquels les femmes se sont battues, qui n'est que faire appliquer la promesse de la modernité. C'est juste rendre la promesse effective. La promesse a été faite, donc maintenant, le contenu de la promesse, c'est économique et social, et là, il faut encore se battre, je suis d'accord. Mais s'il y a un recul, c'est parce que là où le combat n'est pas encore vraiment mené, pour la première fois il est mené par MeToo à un niveau massif, c'est parce que c'est le cœur, d'où là, encore le cœur du problème qui est au milieu, c'est le cercle, c'est plus le cercle économique, c'est plus le cercle du droit qui est encore plus extérieur, c'est le cœur du cœur, c'est là où ça le fait le plus mal, c'est la souveraineté sur son propre corps, l'égalité sur le corps. Puisque à la base, c'est ce que je montre depuis le paléolithique, néolithique, etc., ce qui est la source même de l'inégalité, c'est la vision qu'imposent les hommes du corps des femmes. Et donc toutes les autres égalités, l'égalité en droit qui est nécessaire, l'égalité économique qui est nécessaire,
elles sont déterminées par ce regard. Donc même une femme qui est présidente de société, dominante, riche, etc., tant que le regard reste celui-là, ces autres égalités, elles restent fragiles. Mais on n'a pas pu passer directement par le cœur, parce que le cœur, ça fait trop mal, c'est trop intériorisé, c'est trop profond. Donc on a commencé par ce qui est plus superficiel, l'égalité en droit, puis l'égalité économique. Et maintenant, on est au cœur du cœur. C'est pour ça que ce n'est pas accepté, c'est pour ça qu'on parle d'autre chose. Et là, les femmes, elles revendiquent ça. C'est uniquement ça. Donc, tant qu'il n'y aura pas ça, le reste, on continuera à dire « Oui, mais quand même, ce sont des femmes. Oui, mais la volonté des femmes, les femmes sont versatiles, soit en riant, soit plus sérieusement, soit plus cela, etc. » Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des femmes qui se sont saisies de cette égalité en droit pour en faire, pour devenir successful économiquement, socialement, etc. Ce qui a transformé leur sexualité aussi, parce que ça a transformé le rapport qu'elles ont à leur corps, puisqu'elles ont un capital du point de vue économique, qu'elles sont indépendantes, autonomes du point de vue économique, elles n'ont plus à négocier leur corps en se disant que c'est quelque chose que elles vont perdre de la valeur parce qu'elles vont coucher avec un homme. Et là, les hommes n'ont pas l'habitude, et donc l'ensemble du système est déstabilisé. La réaction d'un homme, de base, ça serait dire « finalement, c'est une salope hein ». Ou c'est de dire « oui, très bien, je le reconnais, mais en même temps, lui, il a le sentiment qu'il va être réduit à son impuissance, il va avoir peur, être angoissé, éprouver ce sentiment de castration, mais mis à nu, sans toutes les défenses qu'il avait érigées avec sa virilité depuis des millénaires. Et donc, ça peut se traduire par des réactions extrêmement violentes dans l'ensemble de la société, des réactions d'insécurité de la part des hommes aussi. Hein. Ça peut se traduire par des réactions des femmes qui s'étaient attachées à cette féminité, justement cette fragilité, qui pouvait être aussi confortable.
Vous faites une allusion au droit d'importuner porté par Catherine Deneuve et Catherine Millet.
Exactement, parce que ça peut être aussi une manière de se... une sorte de confort, quoi. L'esclavage peut être confortable à un moment donné, vous voyez. Et donc je crois que là, on est vraiment dans une sorte de dernière phase d'un processus qui est tellement radical, tellement transformateur, qui peut en être douloureux, comme quand vous enlevez une écharde. Le dernier moment où vous enlevez l'écharde, parfois vous préférez garder l'écharde, vous voyez.
Donc c'est un mal nécessaire.
Lorsque l'écharde sera définitivement enlevée, et ça sera un soulagement. Ça, la caractéristique. Lorsque la blessure, ça fait une blessure, mais lorsque la blessure sera une blessure de milliers d'années. Hein. Donc, moi, si j'ai voulu faire ce livre, c'est pour dire, mais de toute façon, maintenant, le processus est engagé. Il y a des gens qui ont peur, des femmes et des hommes qui ont peur. Mais puisque le processus qui est engagé, hein, il faut accepter, il faut lui donner une charge positive, une signification positive. Parce que c'est une signification positive. C'est-à-dire la libération des femmes, c'est aussi la libération des hommes de leur complexe de castration. Parce que finalement, on souffre aussi de ce complexe de castration, qui était la construction de privilèges, avec des privilèges absolument incommensurables. Mais ça serait la possibilité d'établir la relation sur d'autres bases.
Votre posture, Raphaël, avec les femmes, a-t-elle changé depuis MeToo ?
Ouais, je disais qu'il y a des livres qu'on écrit... Hein. Mais il y a des livres qui vous écrivent. Moi, ce livre, il m'a écrit, au sens où je le disais dès le début. Je l'ai fait aussi à partir de ma propre sexualité, parce que je me suis interrogé sur mes propres fantasmes, sur ma propre excitation. Et je crois que ça a été transmis, ça, de génération en génération. Et j'essaye de m'en libérer, mais essayer de s'en libérer, c'est pas facile, parce que c'est quelque chose qui n'est pas réfléchi. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment intériorisé, qui est quelque chose qui est incorporé. Mais c'est possible.
Est-ce que la clé, c'est pas de l'accepter pour mieux avancer ?
Je pense qu'à un certain niveau, moi, quand je parlais, quand je faisais le livre, je parlais à certaines personnes qui me disaient « Ah ben moi, je ne suis pas pareil. Moi, je ne suis pas comme ça, ça ne me concerne pas. » Mais vraiment, beaucoup d'hommes, hein, ça a l'air bizarre de dire ça. Je dis, mais ça ne te concerne pas. Je n'ai pas dit que tu étais un violeur, je n'ai pas dit que tu étais un harceleur, en fait, je n'ai pas dit que tu étais un porc. Hein, c'est pas la question. La question, tu n'es pas coupable de quelque chose en particulier, mais tu es responsable en tant qu'homme. Et ça ne veut pas dire que je veux dire que les hommes sont... C'est tellement profond. Mais responsable en tant qu'homme, ça veut dire, attention, hein, tu as une façon d'exister en tant qu'homme, de regarder un corps de femme, d'être excité par un certain nombre. Et ça ne veut pas dire que tu es coupable. Ça veut dire que d'un seul coup, il faut arriver... C'est pour ça que il faut arriver à... j'appelle la transvaluation. Ah, c'est pas un mot que j'emploie comme ça pour faire mon malin. C'est pour le distinguer de transformation. Transformation, c'est quand on garde, plutôt transformation, c'est quand on élimine, on veut changer, on enlève les formes complètement, on veut tout changer. Le problème, c'est que là, nos fantasmes, ils ont été construits pendant des milliers d'années. Donc même les femmes, si on leur dit, bon, la féminité, c'est parce que vous voulez correspondre à, vous voulez vous réduire au regard des hommes, à ce qui est supposé être du charme, etc., à la fragilité, la sensibilité, etc. Et on leur dit, maintenant c'est fini, c'est ce qu'un certain féminisme radical va me dire, arrêtons tout ça, c'est impossible de faire ça. Parce que c'est devenu une manière d'exister, y compris pour les femmes, de se valoriser aussi.
De la même manière qu'on empêche souvent les hommes d'exprimer leur part de féminité.
Exactement, ce qu'on va appeler, alors que c'est peut-être leur part de féminité, ça veut seulement dire quelque chose qui est aussi mal, qui n'est pas spécialement
bien
féminin,
sûr,
mais qui est... Voilà. Bon, mais ça, se transvaluer, ça veut dire on garde ces deux formes, mais on leur donne une autre signification, plus ouverte.
Du coup, quels sont les ingrédients clés qui favoriserait un bonheur relationnel entre et pérenne et fluide entre les hommes et les femmes dans notre société aujourd'hui.
On ne peut pas être heureux seul. Parce que la solitude, la solitude absolue, c'est l'étouffement, c'est le briser la relation. Les humains sont heureux avec. Ils sont heureux lorsqu'ils sourient. Et le fait de sourire, c'est s'adresser à autrui et répondre à autrui, et donc dans la relation. Le problème des hommes, c'est qu'ils ont construit quand même, à un certain niveau, et je veux pas, à un certain niveau, un monde de guerre, au sens un monde onaniste, un monde de masturbation, un monde viriliste, où eux-mêmes vont être dans cette espèce d'exigence de compétition avec les autres, par rapport aux femmes, par rapport à eux, permanence, une sorte de guerre aussi contre eux-mêmes. Cet onanisme leur a fait oublier aussi la jouissance de la relation. Parce qu'en empêchant l'autre de respirer, croyant qu'on est égoïste, cette sexualité onaniste va déterminer un mode de vie onaniste. Donc je crois que la source d'une sorte de bonheur qui pourrait aujourd'hui s'exprimer, ça serait de dépasser cet onanisme. Ça serait de dépasser cet onanisme au profit d'une redéfinition plus égalitaire de la relation. Et ça ne veut pas dire que ça serait prédéfini, c'est pour ça que je ne vais pas donner une recette. Parce que si on la prédéfinit, donc on ne la construit pas ensemble, que le sens, la signification n'est pas ouverte, ben on ne peut pas atteindre le bonheur. Parce que dans le bonheur, il y a un côté aventureux. Mais aventureux partagé, c'est-à-dire on construit l'horizon ensemble. Mais l'horizon, il n'est pas prédéterminé. S'il est prédéterminé, c'est banal, entre guillemets, c'est chiant. Donc je pense qu'on pourrait reconstruire des relations, et même en gardant certains fantasmes qui ont existé, même les fantasmes de soumission, de domination, etc., mais sans en faire une discrimination qui va exister dans la société, sans en faire quelque chose d'univoque qui irait en un seul sens, c'est-à-dire en changeant les rôles, en réalisant que c'est un jeu de rôle, en jouant, donc en équilibrant finalement cette relation, et en faisant quelque chose d'original et d'aventureux.
Donc vous dites qu'il faut jouer, ne pas se prendre au sérieux ?
Ne pas se prendre au sérieux surtout, oui. Ne pas se prendre au sérieux. Parce qu'il y a dans la virilité, je n'en ai pas parlé, l'invention aussi de l'esprit de sérieux. L'onanisme, c'est aussi l'invention de l'esprit de sérieux. La cruauté, c'est une forme de sérieux poussée à l'extrême. C'est le sérieux, c'est aussi du complexe. Lorsqu'on se libère de la propre mesure de son phallus, de la prise au sérieux même de son phallus, eh bien on peut jouer beaucoup plus, de façon beaucoup plus libre, y compris sexuellement, et donc au-delà du sexe, y compris dans la vie en général.
Merci Raphaël d'avoir répondu à toutes mes questions. Ce fut un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à vous procurer son livre « Descente au cœur du mal » de Raphaël Liogier aux éditions Les Liens qui Libèrent. Voilà, voilà. Merci à tous. Merci Raphaël.